devaient être des passionnés, parce que pour se lever à cette heure-là un samedi et venir dans le froid, merci beaucoup. Je travaille effectivement au ministère de la Défense, comme on le voit un peu partout, mais il faut que cela soit très clair, je suis ici à titre privé. Bon, j'ai commis quelques livres récemment. Le dernier s'appelle « Le plan pour sauver la Terre » qui est paru cette année chez JMG Éditions. Dans ce livre, j'aborde de façon synthétique la phénoménologie ovnienne en lui donnant une interprétation cohérente. Mon analyse repose sur au moins deux hypothèses clés. Nous avons affaire à des extraterrestres et les extraterrestres ne prennent pas officiellement contact avec l'humanité, car un tel événement risquerait de l'effondrer. Ayant besoin d'approfondir toutes les hypothèses résumées dans ce livre, j'ai entamé la rédaction de plusieurs ouvrages de fond, chacun d'eux étant dédié à un aspect précis. Dans ce contexte, mon nouveau livre « Contact et impact » a vu le jour, la date de parution est envisagée en janvier ou février 2006. Donc cette conférence est donc un résumé en avant-première de ce livre. Ce sujet, l'impact sur notre société, est d'une importance capitale. C'est à mon avis la clé de la compréhension du phénomène. À partir du moment où on valide l'idée qu'un contact nous serait néfaste, beaucoup de thèses en vogue tombent d'elles-mêmes. Et d'autre part, cela nous amène à regarder notre civilisation avec un œil neuf, capable de déceler ses fragilités existentielles, celle-là même qui empêche les extraterrestres de se dévoiler. Spielberg disait « Qu'ils viennent vite, le plus tôt sera le mieux. » Et s'il se trompait. Curieusement, il est difficile de trouver beaucoup d'études ou de rapports sur les conséquences d'un contact entre la société humaine et des extraterrestres. C'est pourtant un thème moderne dont l'ampleur est transverse et pluridisciplinaire. Les grandes institutions militaires et spatiales ont obligatoirement à se pencher sur cet aspect du phénomène puisqu'il vient interférer avec leurs occupations. Et les institutions religieuses ont de même intérêt à prévoir et à cerner le phénomène puisqu'il vient s'immiscer au cœur de leurs préoccupations. On observe le même mutisme chez les ufologues. L'idée sous-jacente chez beaucoup d'ufologues étant grossièrement qu'en cas de contact avec des extraterrestres hostiles, il n'en sortirait rien de bon, qu'avec des neutres, il n'y aurait guère de conséquences, et qu'avec des êtres animés d'intentions amicales, notre société profiterait forcément de la rencontre et de l'échange. Une lapalissade qui masque une absence de réflexion. À la demande de la NASA, en 1960, une commission du Brookings Institution, regroupant l'élite des scientifiques américains, a publié en 1961 un rapport officiel au Congrès portant sur l'ensemble des activités spatiales à venir. Le rapport aborde la question extraterrestre en quelques pages. Il mentionne les risques de réactions violentes suscitées par des groupes d'influence divers, notamment religieux. Risques de bouleversements politiques, sociaux, scientifiques et culturels. Risques de révolution. Il estime que l'existence de civilisations extraterrestres dans notre environnement planétaire pourrait rendre obsolètes toutes nos théories cosmogoniques, anthropocentristes et cosmologiques. Des manifestations violentes pourraient éclater, qui mettraient en danger la vie des scientifiques et l'existence des institutions pour lesquelles ils œuvrent. Le rapport suggère que les scientifiques puissent s'opposer à la révélation de découvertes d'artefacts, considérant les risques de perturbations mentionnés. Rompant avec le mutisme ambiant sur ce sujet, le rapport de l'association Cometa aborde de manière relativement ouverte plusieurs aspects, dont celui des répercussions d'un contact sur la société humaine. La méthodologie employée par les auteurs de Cometa est intéressante. Au lieu de jouer un scénario classique dans lequel l'extraterrestre surgit, la démarche est inversée et correspond à la méthode des états-majors militaires. Afin d'établir un plan à l'encontre d'un adversaire dont nous ne percevons pas toutes les données, la stratégie militaire consiste à anticiper en se mettant à la place de l'ennemi en question. Dans le cas présent, les gradés de Cometa ont imaginé une expédition terrienne fictive dans quelques siècles sur une planète dotée d'une civilisation en beaucoup de points comparable à la nôtre. Ils se sont posé la question de l'approche et de l'étude de cette civilisation, puis ensuite du contact avec celle-ci. Je vous lis un petit extrait. Nous devrions rencontrer des idolâtres, qui nous accueilleront avec enthousiasme comme des sauveurs à même de résoudre toutes leurs difficultés, de leur apporter la paix et la prospérité, de préférence sans avoir beaucoup d'efforts à fournir. Ce seront nos premiers alliés. Des zélotes sceptiques ou repliés sur les vénérables conceptions séculaires de leur monde bouleversé mettront en doute ou nieront notre existence. S'ils venaient à l'admettre, ils nous considéreraient comme autant d'envahisseurs dont les intentions seraient perçues comme d'autant plus suspectes qu'elles seraient pacifiques. De là à imaginer la création de mouvements de défense et de résistance à l'envahisseur, il n'y a qu'un pas qu'il est logique de franchir. Mais comment éviter le piège des bonnes intentions et des bons sentiments, dont chacun sait combien l'enfer en est pavé? Faudra-t-il avouer depuis quand datent nos observations? Nous reprochera-t-on de ne pas être intervenu pour empêcher tel conflit mondial? Ou nous en imputera-t-on la responsabilité? Ou encore, et plus généralement, nous fera-t-on grief d'avoir modifié le cours des civilisations? De très fortes et durables perturbations psychologiques seront à envisager dans ces cas. Seront-ils déçus de ne pas nous savoir immortels? Plus tard, des échanges économiques et technologiques et des liens financiers devraient s'établir avec ces populations. Sera-t-il de sage politique de nous occuper des affaires locales? Et d'une manière ou d'une autre, pourrons-nous échapper à la sollicitation de devenir les arbitres des différents politiques, de la paix, de la guerre et des crises économiques? Surgiront dès lors des mouvements revendicatifs et s'enclencheront sans doute des cycles révolutionnaires dont nous pâtirons ainsi que nos alliés. Notre politique globale serait alors compromise et nous devrions envisager d'espacer les contacts et à la limite de nous retirer. Selon l'auteur Zekaria Sitchin, un rapport international intitulé « Déclaration de principe sur les attitudes à observer après la découverte de l'existence d'une intelligence extraterrestre » a été publié secrètement en 1989. Il comportait 10 clauses et une annexe. Son propos était des plus clairs. L'objectif majeur était de faire en sorte que telle ou telle autorité garde le contrôle absolu des informations après la découverte de l'existence d'une intelligence extraterrestre. Ceci n'a rien d'improbable. Les Européens, les Chinois, les Japonais, bientôt les Indiens ou d'autres nations ont accès à l'espace et se lancent dans l'exploration de Mars et du système solaire. Ni les Américains ni les Russes ne peuvent contrôler toute l'information, interdire la diffusion d'informations d'autorité, ni surveiller tous les découvreurs potentiels. Qu'ils aient donc été obligés de conclure un accord international pour verrouiller l'affaire n'est pas exclu. Continuons notre étude en appliquant une des recommandations du rapport du Brookings Institution, qui dit « Une compréhension fructueuse d'un contact extraterrestre devrait être gagné d'une étude comparative des facteurs affectant les réponses des sociétés primitives à l'exposition aux sociétés avancées technologiquement. » Alors, dans mon livre, j'ai examiné la rencontre de l'Occident avec les Amériques, la rencontre de l'Occident avec les Inuits, avec les aborigènes d'Australie, avec ensuite, à un autre niveau, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Japon. Bon, je ne peux pas tout vous raconter ici. En ce qui concerne la chute des Aztèques face à quelques Espagnols et quelques chevaux, hein, Cortés et là il s'agit de Cortés, le trait significatif est que les deux grandes sociétés de la civilisation amérindienne s'effondrèrent non pas à cause d'un immense écart technologique, parce qu'on a trop tendance à croire qu'il y a un gros écart technologique, c'est faux, ni à cause du hasard favorisé par la légende de Quetzalcoatl, puisque Pizarro réussit de son côté au Pérou à renverser les Incas sans bénéficier de cette coïncidence. Mais parce que de la confrontation de deux conceptions intellectuelles du monde, la plus efficace en sortit vainqueur et la vaincue disparue anéantie. Là est l'élément central. Le cœur est le fer de lance d'une civilisation qui, dans une rencontre avec l'altérité, se mesure à elle, abdique ou l'emporte, c'est son modèle du monde. C'est l'efficacité de son modèle. Alors, je vous rappelle que, concernant les Amériques, ce fut un ethnocide. Donc, c'est un mot que vous entendrez de plus en plus souvent, qui est la, la disparition de la culture, par opposition au génocide qui est la disparition des personnes physiques. Donc, concernant la conquête américaine, ce fut un ethnocide doublé d'un génocide, puisque en 1500, on dénombrait 80 millions d'hommes, et que 50 ans plus tard, il en restait seulement 10 millions. Alors, en cas de contact, serons-nous confrontés à une panique massive ? Robert Hall, sociopsychologue, recruté par Alan Hynek dans le comité scientifique du QFOS, a rédigé un article sur l'éventualité d'une réaction de panique au sein de la population dans le cas d'un contact avec une ethnie extraterrestre. Selon son affirmation, le mythe des réactions de panique suite à des événements traumatisants, conduisant la foule à des émeutes, des actions hystériques et destructrices, est trompeur et exagéré. En réponse à un contact avéré et public avec des extraterrestres, la panique apparaît en fait comme une réaction peu probable. Il se base sur l'étude de la fameuse invasion de Mars produite par Orson Welles et sur un autre événement médiatique, une fiction suédoise de 1975 avertissant d'un prochain accident nucléaire à la centrale de Baserbach dans le sud de la Suède. Une investigation sérieuse permit de démontrer après coup qu'il n'y eut parmi les populations menacées aucun cas de panique. Mais pour l'anecdote, on voit trop souvent écrit dans la littérature que le sociologue américain Robert Hall affirme que la réaction de panique ou l'effondrement relève du mythe médiatique. La réaction de panique, circonscrite au moment très ponctuel de l'apparition, est un mythe trompeur, certes, mais cela n'a rien de commun avec le déroulement des événements qui s'inscrivent dans la durée. L'effondrement de la société est un processus qui mettrait probablement des années à s'accomplir, sans forcément générer des réactions de panique collective le jour même de l'événement du contact. L'étude de Hall se cantonne à l'événementiel, au jour du contact, et ne concerne pas les conséquences à moyen terme, ni même à court terme, sur les structures sociales humaines. Quelles seraient les réactions psychologiques de l'humanité face à un tel événement? Bon, faut-il le rappeler, l'homme est infréquentable. La folie des hommes constitue le premier obstacle au déroulement d'un contact avec des entités pensantes exotiques. Le psychisme humain dans son ensemble, sans opérer de distinction de race ou de sexe ou de culture, comporte de vastes zones d'irrationalité. L'hétérogénéité de la civilisation globale est également un obstacle de taille à l'absorption d'un choc de prise de contact. Nord-Sud, Est-Ouest, ici on est à l'ère de l'informatique, du nucléaire, ailleurs on est presque à l'âge de pierre. En 1973, Carl Jung publie « Un mythe moderne », un ouvrage qui traite des signes du ciel. Jung n'hésite pas à déclarer que la situation psychique de l'humanité est catastrophique. Dans son analyse, il aborde le thème du besoin et de l'attente en un médiateur cosmique. Ce besoin d'une parousie moderne, d'un médiateur, s'il se trouvait en effet soudain présent parmi nous sous la forme d'un extraterrestre, l'humanité l'exprimerait à haute voix sous la forme d'un cri primal. Ce traumatisme psychique lâcherait l'abri d'une quantité d'énergie refoulée qui ferait vaciller la lueur de la raison humaine. L'inconscient collectif projetterait ses démons, ses instincts, ses refoulements dans la sphère consciente. Et comme la modernité selon Jung, a tué les rituels qui permettaient à l'homme d'atteindre sa totalité en le reliant à son inconscient, les démons lâchés, dans le cas d'un contact, seraient sauvages et ils sont de nature à effrayer Jung. Parmi d'autres facteurs perturbateurs, on peut citer l'indignation face aux mensonges perpétrés par différents gouvernements. Pierre Guérin écrit que les conséquences sur tous les plans, psychologiques, politiques, économiques, scientifiques et religieux, qui résulteraient d'une telle révélation seraient pour une part imprévisibles et considérables, dépassant en ampleur une simple réaction d'indignation face à un tel mensonge des autorités à l'échelle planétaire pendant une durée aussi longue. Donc, en soulignant un élément nouveau qui est le mensonge des autorités pendant 60 ans, dévoilé de force par l'événement du contact, Pierre Guérin met le doigt sur un nouveau problème d'ordre psychologique. Comment le public réagirait-il? Et surtout, s'agissant du peuple américain, dont la culture religieuse fait qu'il exècre le mensonge alors qu'il est confronté à un gouvernement manipulateur. Il y a aussi un impact énorme sur la sphère religieuse. Barry Donning est un pasteur presbytérien diplômé en physique, en philosophie, en théologie et l'auteur du livre « La Bible et les soucoupes volantes ». Barry Deline pense que le débat sur les conséquences religieuses d'un contact extraterrestre est loin d'être une question de pure forme et qu'il doit hanter certains gouvernements comme certaines institutions religieuses. Je suspecte que les ovnis sont là depuis les siècles, des siècles, écrit Deline, et qu'ils ont été impliqués dans le développement de la religion biblique à la fois sous la forme de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est également possible que cette présence ait stimulé d'autres religions à travers le monde. Comment cela s'accorderait-il avec le dogme moderne? Je pense que la réponse est pas bien du tout. En 84, Deline mena une enquête auprès de 100 pasteurs et prêtres séminaristes aux États-Unis. Le résultat de ce sondage montra clairement que ses représentants doutaient pour la plupart que les ovnis fissent des intrusions dans nos cieux et que si cela s'avérait exact, ils étaient reconnaissants envers leur gouvernement d'avoir fait en sorte de maintenir le public dans l'ignorance. Si nos dirigeants ont consulté secrètement un petit comité de théologiens et leur ont posé la question « Nous savons que les ovnis sont réels, doit-on le dire au public ou le garder secret ?» Je suis certain que la majorité du clergé a répondu « Gardez le secret », avance Deline. Aucun dirigeant politique ne veut affronter le courroux des leaders religieux. La question de l'avortement aux États-Unis en est une parfaite illustration. La peur des hommes politiques concernant la question religieuse est justifiée. La question du soleil en révolution autour de la Terre, ou le contraire, est une question mineure comparée à la question d'un contact extraterrestre. Alors, examinons quelles seraient les conséquences d'une manifestation sur quelques religions. Les religions orientales, l'hindouisme, le bouddhisme en particulier, seraient probablement moins traumatisées par cet événement que les religions du livre. Et cela pour plusieurs raisons. La première tient à la tendance au syncrétisme et au polythéisme des religions orientales. Pour elles, toute la création, la vie, est digne de vénération, et on peut penser qu'une vie extraterrestre serait acceptée avec respect dans la société hindouiste. Autre avantage de la philosophie indienne, le concept de karma, une loi universelle qui dit que la destinée de chacun s'accomplit à travers un cycle et qui conduit au concept de réincarnation. Il n'y aurait qu'un pas à franchir pour les maîtres orientaux de supposer que les êtres extraterrestres représentent une autre étape dans la chaîne des réincarnations et que l'homme sur... le point de quitter le cycle des vies sur Terre, abordera un autre cycle sur notre planète. Le mouvement New Age aux États-Unis a compris le sens de l'extension de ce concept de réincarnation. Et les penseurs ont très bien combiné la connaissance de la vie extraterrestre avec la croyance hindoue en la réincarnation. Il n'est pas certain qu'aucune autorité hindouiste ait fait ce type de connexion, mais cela semble être une extension logique des concepts de base. Le rapport du Brookings Institution dit à propos du bouddhisme, les Birmans ont convoqué le 6e grand concile bouddhiste, représentant un énorme groupe international de bouddhistes laïcs et de leaders ecclésiastiques. Il semble probable que, au moins dans le cas du bouddhisme Theravada, avec la large participation d'hommes politiquement actifs, modernes, éduqués, les croyances et les principes bouddhistes soient réinterprétés. Formulé autrement, il apparaît très vraisemblable que le bouddhisme, de par ses schémas de pensée, s'accommode fort bien d'un flot d'informations concernant la réalité de la vie extraterrestre. Les manifestations à interprétation ovnienne sont légion dans la Bible. Malgré cette empreinte indéniable, l'appropriation du concept de vie intelligente non humaine serait problématique pour le monde biblique, en particulier pour les chrétiens, ce que souligne le théologien Barry Deline, qui rappelle que les catholiques romains n'ayant pas su intégrer la théorie de Galilée avant 1968 et les protestants fondamentalistes le darwinisme, ils ne voient donc pas comment la chrétienté pourrait intégrer les extraterrestres. La possibilité de l'existence de la vie sur d'autres planètes n'est pas exclue par la tradition juive. Cependant, il semblerait qu'elle rejette la possibilité de l'existence de la vie extraterrestre intelligente. En effet, la finalité de la création, c'est l'homme. Pour la Torah, une créature intelligente est une créature qui, comme l'homme, dispose du libre arbitre. Or, ce libre arbitre n'existe que par la Torah. Il en résulte que si nous envisageons qu'il existe ailleurs des créatures intelligentes, celles-ci détiennent forcément la Torah. Mais comment est-ce possible, puisque la Torah est unique ? Chez les catholiques, il y a longtemps qu'on écrit sur ce thème. Saint Thomas d'Aquin l'évoque déjà, bien avant l'intégration de l'idée de la pluralité du monde, chez les adeptes de Swedenborg, chez les Mormons ou les adventistes du septième jour. « Dieu, dans sa grande bonté, doit avoir doté d'une vie intelligente de vastes régions de l'univers, suggère-t-il. Mais que vaudrait alors le mythe fondateur du péché originel? La terre serait-elle le seul lieu de péché? Le Christ serait-il le roi céleste de l'ensemble des planètes ou seulement de la terre? L'efficacité de son intervention se serait-elle étendue à tout l'univers? Ou l'incarnation christique rédemptrice se jouerait-elle partout en tant que de besoin? Et Marie et les saints, ne serait-ce que des personnages de second plan? Ou devrait-on, afin de leur restituer leur place, leur attribuer un rôle rédempteur sur chacun des mondes de la création? Au début du XXe siècle, le séminariste doit s'en tenir au concordisme. L'Église est à cette époque un répondeur automatique avec une bande enregistrée au XVIe siècle. En écrivant une note sur quelques représentations historiques possibles du péché originel, en 1922, Teilhard de Chardin montre que pour s'accorder aux connaissances modernes, il s'avère nécessaire de s'éloigner des représentations anciennes, car la préhistoire ne cautionne pas l'existence des figures traditionnelles d'Adam et Ève. Trop loin du dogme, Rome l'oblige à renier ses dires et lui retire sa chaire de l'Institut catholique. Néanmoins, l'Église finit par admettre qu'il n'existe pas réellement de contradiction entre le concept d'évolution et les théories bibliques. Son changement d'attitude vis-à-vis de l'évolution darwinienne, quoique très tardif, est exemplaire. Cette avancée appelant des positions d'Église n'empêche pas des mouvements catholiques extrémistes ou intégristes de considérer la chose sous le même angle que les fondamentalistes issus du protestantisme. Par exemple, une des théories ayant cours affirme que les extraterrestres seraient des êtres n'ayant jamais connu le péché originel et donc n'ayant jamais eu besoin de la rédemption christique. Des anges, en quelque sorte. Et des anges au diable, il n'y a qu'un pas. Un pas aisé à franchir pour les intégristes qui verraient dans une présence extraterrestre, on peut le subodorer, qui la marque de l'antéchrist, qui l'œuvre de Satan, qui l'arrivée des démons, qui la fin du monde, la fin des temps, le jugement dernier. Nous abordons un point important avec la sensibilité des églises réformées sur la question extraterrestre, car elle nourrit l'idéologie prégnante en Amérique du Nord, l'État le plus impliqué sur ce sujet et simultanément le plus puissant au monde, et dont les visées hégémoniques ne laissent plus personne indifférent. Certains auteurs comme John Brandenburg, Clifford Wilson et John Weldon, protestants fondamentalistes, ont fait leur la thèse selon laquelle les extraterrestres sont réels et démoniaques. Ils sont là pour tourmenter et leurrer les humains durant les derniers jours avant la seconde venue du Christ. Que cela ne prête pas à sourire. Les protestants fondamentalistes sont extrêmement puissants aux États-Unis. Et le régime actuel sous la présidence de Bush œuvre ouvertement pour la promotion de cette idéologie qui a toujours refusé d'intégrer la théorie de l'évolution, le darwinisme. Les fondamentalistes sont extrêmement proches du pouvoir militaire. De façon plus générale, on peut penser que la paranoïa militaire américaine vis-à-vis des ovnis, la cosmotrouille qui les entraîne dans une course au surarmement, tient en partie son origine de cette position religieuse. Si les ovnis sont démoniaques, ils méritent d'être anéantis. A contrario, si les ovnis sont angéliques, alors c'est le pouvoir militaire américain qui devient soudain démoniaque. Belle crise de conscience en perspective. Bon protestant, John Brandenburg est physicien des plasmas. Il travaille sur la fusion contrôlée, sur des armes à faisceaux électroniques. Ses travaux actuels portent sur les armes à énergie dirigée et la militarisation de l'espace. Le principe de médiocrité qui généralise la situation de la Terre au cosmos implique, aux yeux de Brandenburg, l'existence de conflits militaires entre les différents habitants galactiques. Son discours fondamentaliste est extrémiste. Je vous cite un extrait. Dieu est du côté de l'humanité. Si nous devons combattre les gris, Dieu combattra avec nous. Je dirais qu'il a déjà combattu à nos côtés et que la force de son bras s'est vue à Roswell. Avant même que quiconque d'entre nous sache qu'il avait un ennemi. Pour cela, un vaisseau réticulien est tombé pendant que nous célébrions le 4 juillet, donc la fête nationale américaine. Et le gouvernement trouva le vaisseau des réticuliens fracassé et les corps dispersés servant de nourriture aux busards et aux coyotes. Vous devez être prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour les stopper. Se rendre, c'est la mort, les combattre, c'est la vie. C'est un scientifique de pointe qui dit ça. La position de Brandenburg est caricaturale, mais l'homme fait partie du sérail des scientifiques en pointe dans le secteur de l'armement. Ses propos ont un poids et sont le reflet d'une communauté de pensée. À la suite de Brandenburg, nombre de fidèles ont choisi leur camp. Les ovnis et leurs occupants sont à classer parmi les démons, et il faut donc les anéantir par tous les moyens. Mais les partisans de la théorie angélique sont, il ne faut pas en douter un instant, tout aussi dangereux, car dès qu'un indice confirmera à leurs yeux que les aliens ne sont pas de véritables anges, ils les déchoiront immédiatement en troupes lucifériennes. Nous sommes ici face à un mode de pensée magique, manichéen et rétrograde qui équipe de façon inquiétante certains des hommes les plus puissants de la planète. Bon, vous m'excuserez de ne pas mentionner l'islam, parce que par manque de temps, hein, c'est dans mon livre. Je passe directement aux sectes, avec un petit passage. On voit déjà comment la croyance mystique aux ovnis, hors de toute reconnaissance officielle de leur existence, a pu susciter, en quelques décennies, l'éclosion aux États-Unis et ailleurs d'une multitude de sectes apocalyptiques dont les adeptes attendent stupidement leur salut de la venue des extraterrestres. Le mouvement s'étend à l'Europe et l'on a vu certains adeptes allant jusqu'au suicide collectif en croyant renaître aussitôt dans le vaisseau cosmique des frères de l'espace, qu'ils imaginent basé sur une comète voisine. Jusqu'à quel dérèglement n'irait-on pas si les ovnis étaient officiellement reconnus comme existants, écrit l'astrophysicien Pierre Guérin. Les mensonges conscients des débunkers sont donc paradoxalement, à court terme, un facteur de stabilité politique et sociale. Au niveau économique, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un contact ? Le premier impact visible serait certainement un crash boursier consécutif à une perte de confiance des agents économiques et un manque de lisibilité dans l'avenir. Cette composante de la confiance joue un rôle de premier plan sur les marchés financiers, aussi prompte à l'exubérance irrationnelle qu'au pessimisme du même type. Et quoi que puisse faire ou dire des extraterrestres bienveillants pour éviter de saper la confiance de l'humanité en elle-même et dans la conduite de sa destinée, la remise en question de la civilisation humaine par elle-même aura nécessairement lieu, ainsi que l'installation d'un doute, en partie irrationnel, sur les véritables intentions des arrivants d'outre-espace. Il se jouera fatalement le scénario habituel consécutif au crash monétaire, tarissement du flux de capitaux, banqueroute, faillite, récession, déflation et chômage. Toute la question sera de savoir si l'effondrement sera suivi comme par le passé d'un cycle de reprise. Dans l'attente d'une embellie, les économies ralenties verront le marasme s'installer, entraînant l'altération des systèmes de santé, d'éducation. L'agriculture sera affectée, l'énergie, la recherche, etc., etc. Et ce seront les nations pauvres, fragilisées à l'extrême, qui paieront la facture la plus lourde. Dans quelle mesure nos efforts de relance pourront aboutir ? Face à la dégradation rapide de la situation mondiale, on doit s'attendre à ce que les demandes officielles formulées en direction des émissaires extraterrestres se fassent pressantes, tandis que les attentes du public en la matière, elles, dépassent tout entendement et s'expriment de manière hystérique et violente. Comme d'autres crises graves ont entraîné des guerres par le passé, on peut supposer qu'entreront en scène des intérêts géopolitiques ou de sécurité nationale, se manifestant par des conflits armés. Dès lors, à l'heure du nucléaire banalisé, des dérapages seront envisageables, accompagnés de demandes brûlantes d'arbitrage auprès des représentants extraterrestres. Quel accueil leur réserveront-ils ? Chaque peuple mesurera l'étendue de sa faiblesse et demandera des comptes à son gouvernement, qui n'aura pas su prévoir l'événement, qui n'aura pas su préparer ses populations, qui n'aura pas su mettre en place l'organisation et les instances capables de surmonter la crise dans l'ordre et la sérénité, et qui, à l'écoute de la communauté scientifique abasourdie et paralysée, n'aura aucune réponse ni aucune information à proposer. Il est donc à prévoir qu'une sérieuse perte de crédibilité affectera les autorités politiques et militaires, qui s'étendra avec encore plus de violence sur la communauté scientifique dont les élites arrogantes ont maintenu pendant 60 ans, et contre l'avis d'une partie de la société sensibilisée à ces phénomènes, un couvercle idéologique et irrationnel sur le dossier OVNI. Le réveil sera difficile et on cherchera des coupables. L'objectif sera pour les gouvernements en place de garder le contrôle, d'éviter le limogeage et de sauvegarder la paix sociale. Dans le monde, beaucoup accuseront leur gouvernement d'avoir caché la vérité et les presseront d'avouer. Les plus virulents détracteurs auront de solides arguments pour clouer leurs autorités au pilori. Ils les accuseront de continuer à mentir. Ils révéleront les éléments à charge du dossier OVNI. Ils diront que les raisons du cover-up n'ont jamais été fondées, que le secret et la désinformation étaient des mesures illégales, antidémocratiques, que le gouvernement a desservi le peuple en empêchant que les élites scientifiques ne s'attaquent au problème, que lui cacher la vérité n'a pas joué pour son bien. Ils diront que si le dossier OVNI avait été présenté loyalement au public, le contact ne serait probablement pas perçu comme une menace imminente à l'instar d'une attaque militaire, et que la population ne serait pas au bord de la crise de nerfs, que tout cela est de la faute des gouvernements. Ils diront que le peuple était capable d'encaisser cette vérité, en surestimant très probablement sa capacité d'absorption. Il est probable que l'ONU accueille l'organe de représentation de l'humanité chargé des échanges protocolaires avec les émissaires extraterrestres. Dès lors, s'instaurera un terrible conflit d'influence entre l'ONU et les grandes puissances sur la question de la représentation de la société humaine auprès de la civilisation extraterrestre. Parallèlement à cela, il est probable que certains États tentent pour leur avantage propre d'engager directement des pourparlers avec les visiteurs à l'insu de l'ONU et de leurs partenaires, ou que se nouent des ententes entre États au détriment de l'ONU. Comme il est probable que les États-Unis figurent en bonne position dans ce mouvement de corruption, car le problème de la représentativité ne peut que désavantager ce grand pays, petit par son nombre d'habitants, mais immense par ses ambitions. Après avoir passé au crible de l'analyse des différents types d'impacts sur la société, il ressort que les États-Unis, du moins leur oligarchie dominante, ont des raisons de craindre qu'un contact officiel avec des extraterrestres ait lieu, car leur hégémonie serait menacée sur plusieurs terrains simultanément. Mise à mal de l'économie, doublée d'une remise en question du néolibéralisme, mise à mal du dollar comme étalon du système financier, possible remise en question de la suprématie du pétrole, mise à mal de leur prétention d'unilatéralisme au sein de l'ONU, perte de leur pouvoir représentatif au sein de l'ONU, mise à mal de leur prétention militaire hors de leur sol, mise à mal de leur influence culturelle sur le reste du monde, mise à mal de leur superpuissance face à l'armement extraterrestre, et fin potentiel du capitalisme, et fin potentiel du lobby militaro-industriel. À présent, plongeons-nous environ une année après l'événement, car c'est à cette période que s'accuseront véritablement les troubles. La première période ayant bénéficié de l'inertie du système, de l'attentisme rempli d'espoir de la population, ainsi que de la phase de détermination des autorités religieuses et politiques. Dans une seconde période, face à la montée des revendications, des hystéries religieuses et sectaires, sur un terrain émotionnel perturbé, on pourra craindre une déstabilisation des démocraties au pouvoir fragile. La tentation de retour à des régimes totalitaires prétendument capables de gérer une situation de crise ou de patrie en danger sera forte, comme le souligne Gilles Pinon. Et surgiront un peu partout des hommes providentiels qui voudront se voir confier la destinée des populations. D'autant que suite à l'écroulement des économies, on tiendra les gouvernements pour responsables. Toute la différence se fera dans le comportement et le rôle des extraterrestres, et le rôle qu'ils se donneront. Seront-ils de simples témoins passifs? Iront-ils jusqu'à émettre des conseils sur la situation planétaire? Iront-ils jusqu'à jouer les arbitres dans des oppositions humaines de type politique ou diplomatique, ou dans des conflits plus graves concernant des dysfonctionnements économiques ou des problèmes de répartition des ressources? Devront-ils revêtir leur habit de gendarme si certaines puissances passent outre les décisions de l'ONU et projettent unilatéralement des opérations militaires à l'encontre d'autres pays? Témoins, conseillers, arbitres, gendarmes, quelle sera l'attitude des mandataires extraterrestres vis-à-vis de nos querelles et de nos demandes d'intervention? Dans le livre, je développe plusieurs scénarios fictifs de contact dont le fil conducteur repose sur un contact inopiné avec des extraterrestres bienveillants, un contact dont ils sont les seuls initiateurs et que l'on peut illustrer de la manière suivante, par des atterrissages devant de nombreux témoins ou des survols ostensibles ou d'autres actions d'envergure. Bon, j'ai pas le temps de vous lire, enfin, même de vous faire un résumé de tous ces scénarios, mais je vous livre ce qu'il faut en retenir d'après moi. C'est que, quel que soit le niveau de contact, c'est-à-dire quelle que soit la somme des informations échangées entre nos deux civilisations, qu'elles soient nulles ou importantes, s'agissant d'informations, de technologies, même informations nulles, hein, le résultat est dramatiquement identique sur la civilisation humaine qui subit dans tous les cas de figure un ethnocide fort, c'est-à-dire l'éradication de nos cultures, l'éradication de nos systèmes de pensée, de notre économie, de nos religions, de nos philosophies. Un effondrement global avec un risque aigu à la clé de génocide, avec en arrière-plan la rétrogression de l'humanité à un âge sombre, un état de faible démocratie, de faible niveau de développement, etc., etc. L'ambition de notre civilisation doit être l'équilibre. Pour l'atteindre, elle devra changer, devenir planétaire et stable sur le long terme. Et c'est à partir de ce stade de maturité qu'un contact avec une civilisation extraterrestre sera permis sans risque d'ethnocide. Judicieusement, le contact ne sera donc établi qu'à partir de cette date où les stratèges extraterrestres seront certains de son innocuité. Un niveau de contact minimum correspondant par exemple à un simple survol visible, hein, des capitales par exemple, que tout le monde verrait et qui serait filmé par CNN, là ça veut dire que c'est vrai, c'est filmé par CNN, c'est vrai, peut être mis en relation d'équivalence avec la divulgation de la présence extraterrestre par les gouvernements aux populations. Qu'une collectivité extraterrestre se dévoile à l'humanité, ou bien, seconde proposition, qu'un gouvernement affirme l'existence de cette collectivité extraterrestre sans attendre le bon vouloir de celle-ci, en l'attestant par des preuves, revient à engendrer des conséquences identiques. Insistons sur ce point crucial. Une preuve de l'existence extraterrestre peut s'obtenir de deux façons et avoir les mêmes répercussions. Premièrement, les dirigeants décident de révéler au public la vérité sur les ovnis, ainsi que le réclament les associations ufologiques, et admettent leur origine extraterrestre en apportant quelques preuves. Deuxièmement, les extraterrestres prennent l'initiative du contact avec l'humanité dans un scénario minimaliste d'échange d'informations. Que ce soit l'un ou l'autre des chemins qu'emprunte la vérité, les incidences seront très similaires. Formulé autrement, une révélation gouvernementale ou institutionnelle aurait aujourd'hui une influence désastreuse sur la civilisation humaine prise dans son ensemble, même en se fondant sur des informations optimistes qui souligneraient la bienveillance des entités extraterrestres à notre endroit. Si l'on en croit cette analyse, nous devons admettre, malheureusement, qu'il n'est absolument pas souhaitable qu'un gouvernement révèle quoi que ce soit sur la question extraterrestre aujourd'hui. Sauf exception, et ce congrès en fait partie, car par analogie avec le fonctionnement d'un vaccin, on peut estimer que des piqûres d'injection de micro-éléments exotiques dans le corps social lui permettra le jour du contact avec l'agent pathogène de développer des capacités de résistance à partir des germes inoculés et des anticorps sécrétés depuis des dizaines d'années. Voilà, en participant à cette aventure ici à Châlons, vous contribuez à l'activation du vaccin qui offrira à la race humaine la capacité de résister aux chocs consécutifs à l'éruption d'un agent extraterrestre dans sa sphère de perception. Merci beaucoup.
Votre livre, il paraît quand, monsieur ?
Début 2006, chez JMG, sous le titre Contact et Impact. J'en profite pour faire un peu de publicité. Donc j'ai écrit des livres qui sont en vente au stand JMG, dont Le plan pour sauver la Terre, qui est paru au printemps 2005, dans lequel je fais un rapide survol de toute la phénoménologie ovnienne. Et je mets de l'ordre là-dedans à ma manière. Ceci étant, maintenant j'ai l'ambition de reprendre point par point à la haut, mais de reprendre tous les points que j'ai mentionnés dans ce livre sur des très courts passages. Et donc maintenant, j'ai l'ambition d'approfondir tous ces points et de faire donc quelques ouvrages, je ne sais pas combien, chacun étant vraiment focalisé sur un domaine. Contact et Impact, ce sera le premier, finalement, qui sera focalisé sur un point très précis, qui est donc ce que je viens de vous exposer. Il a fallu que j'ai une accréditation Secret Défense récemment, et c'est un processus assez long, et je pense que les gens qui s'en occupent fouillent un peu. Bon, et s'ils avaient tapé mon nom sur Google, ils auraient vu tout ça. Donc, comme j'ai reçu cette accréditation, je pense qu'ils sont au courant. Voilà. Beaucoup de militaires pensent que ce qu'il y a dans le rapport comme état, ce sont des élucubrations complètes. Il ne faut pas croire qu'il y a un consensus. Hein. La plupart des gens, aujourd'hui, effectivement, quand on... C'est une bonne façon d'introduire le sujet au sein du ministère, c'est de débattre sur le rapport Cometa, puisque c'est quelque chose d'assez sérieux, solide, et en plus qui fait un peu partie du sérail. Eh bien, vous apercevez que la plupart des gens pensent que ce sont de grosses âneries. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je pense que le grand public n'est pas mûr pour recevoir cette information. Mais attendez, quand je parle du grand public, je ne parle pas que du public français. Je pense que le public français est assez rationnel, assez évolué, peut-être pour l'accueillir. Bon, je pense malheureusement que ce n'est pas le cas pour beaucoup de pays dans le monde. Or, une information comme ça, ça ne peut pas rester à l'intérieur des frontières, hein, vous êtes d'accord avec moi, ça serait une information qui serait mondialisée extrêmement rapidement. Et je pense que dans l'état actuel du monde, très déchiré, où des idéologies un peu simplistes font surface, ce ne serait pas une bonne chose.
Point de vue extraterrestre, avec le message du mot que vous nous avez transmis, dit un peu la même chose, ça se rejoint avec vous.
Voilà. Oui, effectivement, j'ai distribué des exemplaires de lettres du dossier UMO là, sur cet aspect. Je pense qu'il y en a pas assez pour tout le monde, mais vous pouvez vous les faire passer. Les lettres sur cet aspect-là sont assez remarquables, et j'en parle dans mon livre. Est-ce que vous parlez du rapport Sturrock? Non. Ah, Disclosure, de Stephen Greer. Ah, ça c'est autre chose. À vrai dire, je ne sais pas trop quoi penser du travail de M. Greer. Il dit des choses très, très ahurissantes. Il n'est pas possible qu'il y ait un peu de désinformation en toute sincérité de sa part. Hein. Je veux dire, bon, il a recueilli beaucoup de témoignages intéressants. Mais quand même, parmi ces témoignages, il y a des choses difficiles à croire. Effectivement, aux États-Unis, il y a des mouvements qui demandent la vérité. Hein, Jimmy Carter, quand il a été au pouvoir, il avait dit qu'il dirait toute la vérité, et puis il n'a rien dit du tout. Il y a aux États-Unis, effectivement, plusieurs courants qui s'affrontent. Et ce qui se comprend un peu, c'est un pays beaucoup moins centralisé que la France. Et il y a des institutions qui ont beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus de moyens aussi. Donc, oui, on assiste à des guerres de l'information au sein même du pays. Oui. Mais non, je n'en sais pas plus aujourd'hui. Est-ce que Greer aura l'oreille du Congrès? Parce que ce qu'il voulait, en fait, c'était que les gens puissent témoigner sans être poursuivis légalement. Hein, parce que dans leur contrat avec l'armée, tous ces gens qui ont travaillé des projets ou qui ont eu l'occasion de voir des choses ont signé une clause comme quoi ils ne pouvaient rien révéler. Bon. Donc Greer voudrait lever cet obstacle juridique pour permettre de faire parler beaucoup de gens. Et moi je souhaite qu'il réussisse. Il n'est pas impossible non plus qu'il y ait une certaine levée progressive du secret, comme dit Gilles Dastré, aux États-Unis. Mais la situation est très très complexe à analyser aux États-Unis. Hein. C'est vraiment pas simple. On sent bien qu'il y a plusieurs oppositions. Oui ? Oui. C'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, effectivement, dans les premières lettres, dans le vieux dossier, on parlait de la planète Humo et des Humites. Mais en fait, déjà, c'était un mot espagnol. Donc, le U se prononçait U. Donc, déjà, si on rétablit en français, ça donne Humite et Humo. Et puis, un jour, dans une lettre assez récente, les Humites ont dit, bah, écoutez, nous, on préfère que vous nous appeliez des Humains. Bon, effectivement, on sent derrière cette demande une demande de rapprochement. Alors, pourquoi pas? Mais bon, c'est trop proche phonétiquement, après, on fait une différence hein, entre humain et humain. Donc, bon. Voilà, c'est pour ça que je préfère parler de Humites, comme ça, on distingue mieux. Oui, oui, le day after Roswell. Je ne sais pas, je pense qu'il faut regarder tout ça avec prudence, mais il faut le regarder quand même. Il y a des informations à l'intérieur qui sont contradictoires, enfin, des informations douteuses, hein, et comme il y a des choses qui paraissent beaucoup moins douteuses. Donc, j'ai pas d'opinion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas dire, voilà, sur tel point, Corso a raison, sur tel point, Corso a tort. Quoique, quand il dit qu'on doit à la rétro-ingénierie sur les engins extraterrestres capturés la découverte des fibres optiques, la découverte des transistors, ça c'est du bidon, c'est complètement faux. Les transistors étaient découverts bien avant et les principes de fibres optiques aussi. Donc ça, cet argument est complètement injustifié. Bon, ceci dit, moi je ne sais pas s'il a peut-être vu tout ce qu'il a vu. Voilà, donc j'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet, simplement qu'il faut prendre ça avec une extrême prudence.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aviez pas le temps de parler de la question extraterrestre par rapport à la religion islamique dans votre contenu.
Oui.
Est-ce qu'on pourra quand même le retrouver ?
Ah oui, c'est dans le livre. Hein. Oui, je l'ai développé dans le livre, oui. Ben, il y a un peu le même problème qu'avec la Torah sur le Coran, a surgi un créé. C'est même pas un homme qui l'a écrit, il était déjà écrit au ciel, et il est unique. Et donc, il ne supporte pas l'altérité, il ne supporte pas, je dirais, la cohabitation. Hein, on le voit bien en ce moment. Donc, à mon avis, ça se passe très mal de ce côté-là. Hier, j'ai mangé avec Georges Metz de Lumière dans la nuit, et il m'a pris pour une taupe du ministère de la Défense. Donc au début, il ne voulait pas me parler, mais non, c'est complètement faux. J'ai plutôt l'impression que c'est moi qui suis une taupe au sein du ministère de la Défense, vous voyez.
Vous êtes pas le seul à parler du mot, de Jean-Pierre.
Bien sûr. Oui, et puis je voudrais à ce propos-là vous dire qu'il y a Jean-Paul Lyon qui est présent ces 3 jours, et Jean-Paul Lyon est, je dirais, le référentiel documentaire et intellectuel hein, du dossier Humo. S'il y a vraiment une personne qui connaît absolument tout le sujet et qui continue à travailler dessus de façon scientifique, parce que Jean-Paul Lyon est un scientifique, voilà, donc c'est la meilleure personne à contacter sur le sujet.
Et vous disiez tout à l'heure qu'il y aurait certainement un vent de panique pour l'humanité à partir du moment où l'idée extraterrestre sera admise. Mais ne pensez-vous pas que ces intelligences extraterrestres, et notamment les bienveillants, ont un tel pouvoir qu'ils pourraient tout à fait, d'une façon subliminale, nous y préparer? Sûrement que le travail que vous faites maintenant...
C'est une bonne question. Il n'est pas impossible, justement, que des extraterrestres bienveillants s'occupe de nous en ce moment, de façon subliminale, inconsciente, et nous fasse des choses qui modifient finalement le comportement global de la société. En tout cas, on voit qu'il se passe des choses, hein, dans les abductions, dans les contacts, il y a beaucoup de manifestations, et il est probable qu'il se passe quelque chose au niveau inconscient que l'on a du mal à cerner.
Au niveau des publicités des différents produits, on commence déjà à voir ces créatures un petit peu bizarres, même au niveau des jeux des enfants. Je pense que tout ça arrive tout doucement, et puis de toute façon, le fait même que nous soyons ici aujourd'hui en fait certainement partie.
Il ne faut pas non plus oublier que la race humaine est quand même capable de se prendre en charge un petit peu. Hein. Alors peut-être que j'ai été piloté par un extraterrestre, je ne sais pas, hein, mais je n'ai pas l'impression jusqu'à aujourd'hui.
Vous faites allusion un peu dans votre livre, justement, à ça, sur les limites.
Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Là, effectivement, si on fait référence à la conception métaphysique humiste, oui, il y a, eux l'expliquent, on serait en relation avec un univers parallèle qui contiendrait toutes les âmes des défunts, donc en fait toute l'humanité, et on serait en contact avec cet univers qui nous renverrait aussi des messages subliminaux. Donc, d'une certaine façon, pour parler d'inconscient collectif, là, vous voyez, et donc que cet inconscient collectif nous enverrait des messages bien réels. Mais bon, par exemple, Jung aussi le pense, hein, à sa façon, que l'inconscient collectif nous envoie des messages. Oui. Terrain glissant, parce que je sais que la plupart des gens qui s'intéressent à l'ufologie pensent qu'il s'agit là d'une supercherie. Bon, c'est pas mon cas. Ça fait très longtemps que j'étudie le dossier UMO. Pour moi, il y a un certain nombre d'indices convergents qui font que le dossier me semble plausible. Alors, je ne dirais pas que je n'ai pas de preuves. Je ne dirais jamais que j'y crois dur comme fer. Je dis simplement, pour moi, il y a une forte probabilité que ce soit un dossier solide. Voilà.
Mais entre une supercherie humaine.
Tout à fait. Oui. Ah oui, parce qu'on peut prendre le dossier à des tas de niveaux, des tas de degrés. Hein. On peut très bien dire que ce sont des extraterrestres réels, mais qui ne sont pas du tout comme ils se décrivent et qui ne vivent absolument pas comme ils le disent, et qui nous manipulent, qui nous montent un théâtre, comme ça peut être des humains. Ensuite, on a dit que c'était, puisque c'était pas le KGB, c'était la CIA. Alors, effectivement, la CIA est un mouvement qui a les moyens, sur la durée, pour pouvoir monter des grosses manipulations. Enfin, ça me semble quand même peu probable, parce que comme vous lisez le dossier humide, le ton général est quand même nettement anti-américain. Et justement, il s'applique à démonter toutes nos règles qui nous paraissent aller de soi, et surtout les règles économiques. Bon. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait l'intérêt de la CIA de monter un truc comme ça. Bon. Puis il y a d'autres indices qui me font dire que ça ne provient pas d'une agence gouvernementale. Mais enfin, bon, on n'a aucune preuve. Hein. Pardon ? Oui, alors faisons mention, c'est vrai que moi je pense que tout le monde est au courant, mais bon, non, tu as raison. Faisons mention du site humoscience.org, alors c'est humo-science au pluriel.org, dans lequel vous trouvez toutes les lettres humites traduites en français, un certain nombre de lettres en espagnol, en anglais, et puis vous trouvez aussi tous ceux qui ont bien voulu travailler sur le sujet et qui ont fait des études, que ce soit scientifiques ou sociologiques ou des réflexions. C'est aussi un forum de discussion avec plusieurs thèmes, un thème de biologie, un thème physique, où il y a des physiciens hein, qui discutent entre eux, c'est très intéressant, mais je ne comprends rien, là, vraiment c'est de la haute physique. Des gens du monde entier, hein, il y a des Canadiens, physiciens canadiens, plusieurs d'ailleurs, français, espagnol, belge. Il y a donc comme ça, il y a plusieurs thèmes de discussion. Je pense que dans le dossier UMO, qui est très complexe, qui est très lourd, qui est très gros, qui est très difficile à lire, je pense qu'il y a une chose importante, c'est que avant d'avoir une opinion, il faut lire le dossier. On ne peut avoir une opinion qu'après avoir lu le dossier. J'ai rencontré trop de personnes qui ont un sujet, qui ont une opinion et qui n'ont jamais lu une lettre. Ils ont peut-être lu les livres de Jean-Pierre Petit et puis ça s'arrête là. Voilà. Donc, je ne vois pas comment on peut se forger une opinion sur un dossier tel que celui-là sans l'avoir lu d'abord. Parce que sinon, ce n'est pas fondé. J'ai rencontré plein de gens qui ont écrit des âneries sur le dossier UMO. Ça montre bien qu'ils ne l'ont pas lu. Quoi. Voilà. Il a fourni un énorme travail.
Il y a des
oui. Non, mais M. Jean-Pierre Petit est un homme, un scientifique remarquable qui a fait un travail phénoménal. C'est un peu grâce à lui en France, si on connaît le dossier, qui a fait démarrer le dossier. Il faut qu'on lui soit reconnaissant. Voilà. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'il n'est pas là aujourd'hui. C'est dommage qu'il ne soit pas là. On le regrette. Merci.